Chapitre 6. La situation empirait. La France, entre deux systèmes, l'ancien et le nouveau, s'agitait sans avancer, et elle avait faim. Paris, il faut le dire, vivait par hasard. Sa subsistance, toujours incertaine, dépendait de tel arrivage, d'un convoi de la Beauce ou d'un bateau de corbeille. La ville, avec d'immenses sacrifices, abaissait le prix du pain. Il en résultait que toute la banlieue, à 10 lieues à la ronde et plus, venait se fournir à Paris. C'était tout un vaste pays qu'il s'agissait de nourrir. Les boulangers trouvaient leur compte à vendre sous main aux paysans, et ensuite, quand le Parisien trouvait leur boutique vide, ils se rejetaient sur la prévoyance de l'administration qui n'approvisionnait pas Paris. L'incertitude du lendemain, les vaines alarmes, augmentaient encore les difficultés. Chacun se faisait des réserves, on l'entassait, on cachait. L'administration aux abois envoyait de tous côtés, achetait de gré ou de force. Parfois, les farines en route étaient saisies, retenues au passage par les localités voisines qui avaient de pressants besoins. Versailles et Paris partageaient, mais Versailles gardait, disait-on, le plus beau, faisait un pain supérieur. Grand sujet de jalousie. Un jour que ceux de Versailles avaient eu l'imprudence de détourner chez eux un convoi destiné pour les Parisiens, Bailly, l'honnête et respectueux Bailly, écrivit à M. Necker que, si l'on aurait restitué les farines, 30 000 hommes iraient les chercher le lendemain. La peur le rendait hardi. Sa tête était en péril si les provisions manquaient. À minuit, souvent, il n'avait encore que la moitié des farines nécessaires pour le marché du matin. L'approvisionnement de Paris était une sorte de guerre. On envoyait la garde nationale pour protéger tel arrivage, assurer tel et tel achat. On achetait à main armée. Gênés dans leur commerce, les fermiers ne voulaient pas battre, les meuniers ne voulaient pas moudre. Les spéculateurs étaient effrayés. Une brochure de Camille Desmoulins désigna, menaça les frères Leleu, qui avaient le monopole des moulins royaux de Corbeil. Un autre, qui passait pour agent principal d'une compagnie d'accapareurs, se tua, ou fut tué dans une forêt voisine de Paris. Sa mort entraîna sa banqueroute, immense, effroyable, de plus de 50 millions. Il n'est pas invraisemblable que la cour, qui avait de grandes sommes placées chez lui, les retira brusquement pour solder une foule d'officiers qu'elle appelait à Versailles, peut-être pour emporter à Metz. Elle ne pouvait sans argent commencer la guerre civile. C'était déjà une guerre contre Paris, et la pire peut-être que de le retenir dans une telle paix. Plus de travail et la faim. Je voyais, dit Bailly, de bons marchands, des merciers, des orfèvres, qui sollicitaient pour être admis parmi les mendiants qu'on occupait à Montmartre à remuer de la terre. Qu'on juge de ce que je souffrais. Il ne souffrait pas assez. On le voit, dans ses mémoires mêmes, trop occupé de petites vanités, de questions de préséance, de savoir par quelle forme honorifique commencera le serment de la bénédiction du drapeau, etc. Et l'Assemblée nationale ne souffrait pas assez non plus des souffrances du peuple. Autrement, elle eût moins traîné dans l'éternel débat de sa scolastique politique. Elle eût compris qu'elle devait hâter le mouvement des réformes, écarter tous les obstacles, abréger ce mortel passage où la France restait entre l'ordre ancien et l'ordre nouveau. Tout le monde voyait la question, l'Assemblée ne la voyait pas. Avec des intentions généralement bonnes et de grande lumière, elle semblait peu sentir la situation. Retardée par les résistances royalistes, aristocratiques qu'elle portait dans son sein, elle l'était encore par les habitudes de barreau ou d'académie que conservaient ses plus illustres membres, gens de lettres ou avocats. Il fallait d'abord, à tout prix, sans parlage et sans retard, insister et obtenir la sanction des décrets du 4 août, enterrer le monde féodal. Il fallait, de ces décrets généraux, déduire des lois politiques, et les lois administratives qui détermineraient l'application des premières, c'est-à-dire organiser, armer la révolution, lui donner la forme et la force, en faire un être vivant. Comme telle, elle devenait moins dangereuse qu'en la laissant flottante, débordée, vague et terrible comme un élément, comme l'inondation, l'incendie. Il fallait se hâter surtout. Ce fut pour Paris un coup de foudre quand on y sut que l'Assemblée s'occupait seulement de savoir si elle reconnaîtrait au roi le droit absolu d'empêcher, veto absolu, ou le droit d'ajourner, suspendre 2 ans, 4 ans ou 6 ans. Pour des mots si pressants, mortels, cette perspective était le désespoir même, une damnation sans appel. 4 ans, 6 ans, bon Dieu, pour les gens qui ne savaient pas s'ils vivraient le lendemain. Loin d'avancer, l'Assemblée est visiblement reculée. Elle fit 2 choix rétrogrades et tristement significatifs. Elle nomma à président l'évêque de Langres, la Luzerne, partisan du veto, puis Mounier, cette fois encore, un partisan du veto. On s'est moqué de la chaleur que le peuple mit dans cette question. Plusieurs, dit-on, croyaient que le veto était une personne ou un impôt. Il n'y a de risible en ceci que les moqueurs. Oui, le veto valait un impôt s'il empêchait les réformes, la diminution de l'impôt. Oui, le veto était éminemment personnel. Un homme disait « j'empêche », sans raison, tout était dit. Monsieur de Sèze crut plaider habilement pour cette cause en disant qu'il s'agissait non d'une personne, mais d'une volonté permanente, plus fixe qu'aucune assemblée. Permanente, selon l'influence des courtisans, des confesseurs, des maîtresses, des passions, des intérêts. En la supposant permanente, cette volonté peut être très personnelle, très oppressive, si lorsque tout change autour d'elle, elle ne change ni ne s'améliore. Que sera-ce si une même politique, un même intérêt, passe avec le sang et la tradition dans toute une dynastie? Les cahiers, écrits dans des circonstances tout autres, accordaient au roi la sanction et le refus de sanction. La France s'était fiée au pouvoir royal contre les privilégiés. Aujourd'hui, que ce pouvoir était leur auxiliaire, fallait-il suivre les cahiers? Autant relever la Bastille. L'encre de salut qui restait aux privilégiés, c'était le veto royal. Ils serraient le roi, embrassaient le roi dans leur naufrage, voulant qu'il suivît leur sort, qu'il fût sauvé ou bien noyé avec eux. L'Assemblée discuta la question comme s'il s'était agi d'un pur combat de système. Paris sans témoin une question qu'une crise, la grande crise et la cause totale de la Révolution, qu'il fallait sauver ou perdre. Être ou n'être pas, rien de moins. Et Paris seul avait raison. Les révélations de l'histoire, les aveux du parti de la Cour, nous autorisent maintenant à le prononcer. Le 14 juillet n'avait rien changé. Le vrai ministre était Breteuil, le confident de la reine. Necker n'était là que pour la montre. La reine regardait toujours vers la fuite, vers la guerre civile. Son cœur était à Metz, au camp de Bouillé. L'épée de Bouillé, c'était le seul veto qui lui plut. On eût pu croire que l'Assemblée ne s'était point aperçue qu'il y eut une révolution. La plupart des discours auraient servi aussi bien pour un autre siècle, à un autre peuple. Un seul restera, celui de Sieyès qui repoussa le veto. Il établit parfaitement que le vrai remède aux empiètements réciproques des pouvoirs n'était pas de constituer ainsi arbitre et juge le pouvoir exécutif, mais de faire appel au pouvoir constituant qui est dans le peuple. Une assemblée peut se tromper. Mais comment le dépositaire inamovible d'un pouvoir héréditaire n'a-t-il pas plus de chances de se tromper, sans le savoir ou sciemment, de suivre un intérêt à part, de dynastie, de famille? Il définit le veto, une simple lettre de cachet lancée par un individu contre la volonté générale. Une chose de bon sens fut dite par un autre député. C'est que, si l'Assemblée était divisée en deux chambres, chacune ayant un veto, on avait peu à craindre l'abus du pouvoir législatif. Par conséquent, il n'était pas nécessaire de lui opposer une nouvelle barrière en donnant le veto au roi. Il y eut 500 voix pour une chambre unique. La division en deux chambres ne put obtenir 100 voix. La foule des nobles, qui n'avait pas chance d'entrer dans la chambre haute, se garda bien de créer pour les grands seigneurs une pairie à l'anglaise. Les raisonnements des anglomanes, présentés alors avec talent par Lally, Mounier, etc., plus tard reproduits obstinément par Madame de Staël, Benjamin Constant et tant d'autres, avaient été d'avance mis en poudre par Sieyès dans un chapitre de son livre « Le tiers-état ». Chose vraiment admirable, ce puissant logicien, par la force de son esprit, n'ayant point vu l'Angleterre, connaissant peu son histoire, avait obtenu déjà les résultats que nous donne l'étude minutieuse de son présent et de son passé. Il avait vu parfaitement que cette fameuse balance des trois pouvoirs qui, si elle était réelle, produirait une immobilité, est une pure comédie, une mystification au profit d'un des pouvoirs, aristocratique en Angleterre, monarchique en France. L'Angleterre a toujours été et sera une aristocratie. L'art de cette aristocratie, ce qui a perpétué son pouvoir, ce n'est pas de faire part au peuple, mais de trouver à son action un champ extérieur, de lui ouvrir des débouchés. C'est ainsi qu'elle a répandu l'Angleterre sur tout le globe. Pour le veto, l'avis de Necker, qu'il adressa à l'Assemblée, celui auquel du reste elle s'arrêtait d'elle-même, fut d'accorder le veto au roi, le veto suspensif, le droit d'ajourner jusqu'à la seconde législature qui suivrait celle qui proposait la loi. Cette Assemblée était mûre pour la dissolution. Née avant la grande révolution qui venait de s'opérer, elle était profondément hétérogène, inorganique, comme le chaos de l'ancien régime d'où elle sortit. Malgré le nom d'Assemblée nationale dont la baptisa Sieyès, elle restait féodale. Elle n'était autre chose que les anciens états généraux. Des siècles avaient passé sur elle du 5 mai au 31 août. Élue dans la forme antique et selon le droit barbare, elle représentait 200 000 ou 300 000 nobles ou prêtres autant que la nation. En les réunissant à soi, le tiers s'était affaibli et énervé. À chaque instant, sans même le bien sentir, il composait avec eux. Ils ne prenaient guère de mesures qui ne fussent des moyens termes, bâtards, impuissants, dangereux. Les privilégiés qui travaillaient au dehors avec la cour pour défaire la révolution l'entravaient plus sûrement encore au sein de l'assemblée même. Cette assemblée, toute pleine qu'elle était de talent, de lumière, n'en était pas moins monstrueuse par l'incurable désaccord de ses éléments. Quelle fécondité! Quelle génération peut-on espérer d'un monstre? Voilà ce que disait le bon sens, la froide raison. Les modérés, qui sembleraient devoir conserver une vue plus nette, moins trouble, ne virent rien ici. La passion vit mieux, chose étrange. Elle sentit que tout était danger, obstacle dans cette situation double, et elle s'efforça d'en sortir. Mais comme passion et violence, elle aspirait une défiance infinie, rencontrait des obstacles immenses. Elle redoublait de violence pour les surmonter, et ce redoublement créait de nouveaux obstacles. Le monstre du temps, je veux dire la discorde et les deux principes, leur impuissance à créer rien de vital il faut pour bien le sentir, le voir en un homme. L'unité de la personne, la haute unité de faculté qu'on appelle le génie, ne servent de rien si, dans cet homme et ce génie, les idées se battent entre elles, si les principes et les doctrines ont en lui leur guerre acharnée. Je ne sache pas un spectacle plus triste pour la nature humaine que celui qu'offre ici Mirabeau. Il parle à Versailles pour le veto absolu, mais en termes si obscurs qu'on ne sait pas bien d'abord si c'est pour ou contre. Le même jour, à Paris, ses amis soutiennent au palais royal qu'il a combattu le veto. Il inspirait tant d'attachement personnel aux jeunes gens qui l'entouraient, qui n'hésitèrent pas à mentir hardiment pour le sauver. « Je l'aimais comme une maîtresse, » dit Camille Desmoulins. On sait qu'un des secrétaires de Mirabeau voulut se tuer à sa mort. Les menteurs, exagérant comme il arrive, le mensonge pour mieux se faire croire, affirmèrent qu'à la sortie de l'assemblée, il avait été attendu, suivi, blessé, qu'il avait reçu un coup d'épée. Tout le palais royal s'écrie qu'il faut voter une garde de 200 hommes pour ce pauvre Mirabeau. Dans cet étrange discours, il avait soutenu le vieux sophisme que la sanction royale était une garantie de la liberté, que le roi était une sorte de tribun du peuple, son représentant. Un représentant irrévocable, irresponsable, et qui ne rend jamais compte. Il était sincèrement royaliste, et comme tel, ne se fit pas scrupule de recevoir plus tard une pension pour tenir table ouverte aux députés. Il se disait qu'après tout, il ne défendait que sa propre conviction. Une chose, il faut l'avouer, le corrompait plus que l'argent, celle qu'on eût le moins deviné dans cet homme si fier d'attitude et de langage. Et quelle chose? Il avait peur. Peur de la révolution qui montait, qui grandissait. Il voyait ce jeune géant qui le dominait, qui tout à l'heure l'emportait comme un autre homme. Et alors, il se rejetait vers ce qu'on appelait l'ordre ancien, vrai désordre et vrai chaos. Dans cette lutte impossible, il fut sauvé par la mort.